PME Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et puis bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Guillaume Dozinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Johan Melloul, directeur associé d'Inextenso Finance.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui, nous recevons Martin Bretécher, président fondateur de Hold On et président cofondateur de Figures. Bonjour Martin.
Bonjour Pauline.
Alors Martin, vous êtes né à Paris et vous avez suivi des études en sinologie à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Puis vous avez obtenu un Master 2 en ingénierie d'affaires. Votre première grande expérience professionnelle, ce sont vos 12 années passées chez Dynamo Paris, une agence spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction et l'aménagement intérieur d'hôtels. Alors un mot peut-être sur cette expérience qui explique sans doute ce que vous faites aujourd'hui.
C'est tout à fait logique. Je m'occupais d'une partie assez spécifique, un métier qui n'était pas très développé à l'époque en France. C'est ce qu'on appelle de la gestion de projet FF&E et OS&E. FF&E, ça veut dire Fixture, Furniture and Equipment. Et OS&E, c'est Operating Supplies and Equipment. Dans le cadre d'un hôtel, vous avez les travaux, la construction et vous avez tout le reste. En gros, c'est ce qui va conférer son usage à un bâtiment qui, sans cela, serait un monument et qui ne générerait pas de revenus. Donc en gros, mon métier pendant ces années, c'était de superviser, de piloter le sourcing, la fabrication de 48 millions d'euros de mobilier, de fourchettes, de tables, de chaises, de rideaux, de tapis, de coffres-forts, et de piloter toute la livraison, l'installation dans des hôtels comme le Sceau Morlan à Paris, le Kimpton, le Grand Intercontinental, mais aussi le Cotton House à l'île Moustique, le Hoxton, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, et notamment des restaurants.
Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément de tout ce que représente cet aménagement d'intérieur. Donc je reprends votre parcours en 2022, c'est d'ailleurs pour ça que vous créez Hold On, une société de conseil au stade du montage de projet pour la partie aménagement d'hôtel, donc tout ce qui touche à l'aménagement d'intérieur, on vient de le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire cette fois-ci ce que vous proposez à travers Hold On?
Eh bien, en fait, c'est assez simple. C'est que quand on va concevoir et construire un hôtel, tout ce qu'on appelle FF&E OS&E va représenter 10 à 20% du budget. Donc, légitimement, on se préoccupe des 80% restants, à savoir la construction de l'immeuble. Le problème, c'est qu'on est en plein dans la loi de Pareto. C'est que là, nous sommes assis à des chaises, nous travaillons sur des tables, et si on n'a pas de lit, il n'y a pas d'hôtel. Et tous ces sujets-là ont tendance à être largement sous-estimés, de sorte que les budgets ne sont jamais suffisamment importants, les limites de prestation ne sont pas correctement appréhendées, et parfois on a un architecte d'intérieur, qui va dessiner quelque chose qui n'est pas du tout fonctionnel. L'idée derrière Hold On, en fait, c'est d'aider des maîtres d'ouvrage ou quiconque en aurait besoin à appréhender suffisamment tôt toutes les contraintes et l'ensemble des enjeux liés à l'aménagement intérieur d'un hôtel, sans avoir recruter un consultant qui sera là pour 3 ans. Donc, à un stade où ils ne maîtrisent pas du tout ce sujet, l'idée, c'est de les familiariser avec l'ensemble des pièges et de déminer le terrain pour qu'ils soient sur des rails et que le projet n'aille pas dans le mur. En général, on découvre les problèmes à la toute fin du projet. C'est ça que je veux leur éviter avec des missions rapides.
Alors, votre autre société s'appelle Figures. Vous l'avez cofondée avec Gaëtan Lagarde. Il s'agit d'un outil en ligne pour calculer des ordres de grandeur de budget et de planning d'aménagement d'intérieur d'hôtel. C'est complémentaire
avec... Tout à fait. En fait, comme il n'y a pas vraiment de parcours académique qui existe pour cette partie FF&E OS&E, parce que c'est à la fois du juridique, de la logistique, de la technique, de l'esthétique aussi, de la diplomatie, parce qu'il faut bien apporter des petits chocolats aux gardiens de la guérite du chantier pour qu'ils nous autorisent à passer quand on n'a pas nos pièces d'identité. Donc, ça cumule pas mal de compétences diverses et variées. Et personne ne connaît cette compétence. Et le budget est, depuis le néolithique, sous-estimé. Et donc, l'idée, c'est qu'avec un algorithme gratuit, anonyme et instantané, on puisse, en 10 questions très rapides, avoir un ordre de grandeur de ce que va représenter le budget et surtout comment le ventiler entre ce qui est joli qu'on voit quand on est client de l'hôtel et tout ce qu'on ne voit pas qui peut représenter 30% du budget. Donc si vous avez 6 millions d'euros pour aménager un hôtel, en fait, il y en a 2 dont vous ne savez pas la destination initialement.
Alors, Hold On existe depuis 2022. Est-ce que depuis, vous avez eu des beaux projets que vous pouvez partager avec...
Alors, Malheureusement, on est à des stades beaucoup trop amont pour commencer à communiquer. On signe des NDA qui font 200 pages. Simplement, non. Par contre, quelque chose qui est intéressant avec avec Figures, c'est que on l'a lancé en mars 2024 et deux mois après l'avoir lancé, on avait eu pour à peu près 1 milliard d'euros de chiffré sur de l'hôtellerie. Ce qui est assez étonnant, c'est que il y en avait 20% qui étaient dans des pays européens. Alors qu'on n'a pas du tout communiqué. Ah. Donc, on suppose que c'est à l'export.
Ouais.
Et donc, il y a toute une data derrière qui est assez intéressante, qui nous permet d'ajuster notre algorithme et de commencer à avoir un petit peu de lead sur ce qui se passe dans le vaste monde.
Guillaume Dosinel, je suis sûr que vous avez plein de questions également.
Concernant Figures, comment l'algorithme est-il bâti? Qui en sont les utilisateurs?
Alors, l'algorithme a été bâti à l'origine sur la base de projets qui ont été réalisés. Mon associé a un rôle assez complémentaire, puisque à nous deux, on a aménagé pour à peu près 80 millions d'euros de mobilier. Ça semble un montant qui n'est pas forcément énorme quand on est dans la finance, mais pour du mobilier, il faut se rendre compte que c'est potentiellement 80 millions de fourchettes. Donc, c'est beaucoup de boulot. Et un projet d'hôtel, c'est 250 fournisseurs, etc. Donc, sur la base de projets existants, on a retravaillé les budgets. Un hôtel qui avait 3 restaurants, on sait que c'est pas la norme, donc on l'a ramené avec un restaurant pour fonder cet algorithme, qui ensuite est autocorrecteur, si je puis dire, puisque dans les questions, il y a une des questions, c'est quel budget avez-vous en tête? Et 50% des utilisateurs remplissent correctement et mettent un budget cohérent, puisque ça va avoir un impact sur la conclusion qui va leur être générée à la fin du document. Et après, on a pas mal de contacts de partout. C'est un petit milieu qui nous alimente en budget, en lead et en nouveaux projets.
Quels sont vos axes de développement?
Oh, alors, plein. Le monde. On est en train de lancer un abonnement actuellement qui s'adresse, je rebondis sur la question précédente, mais en gros, définir un budget, c'est intéressant pour une banque à qui quelqu'un vient demander de l'argent pour être sûr que le projet tient la route. C'est intéressant pour un architecte à qui un investisseur demande « il est magnifique ton projet, mais combien il va me coûter ?» Très souvent, l'architecte n'a pas cette réponse. Ça sert à un investisseur pour qualifier différentes offres de différents opérateurs, etc. Ça sert à peu près à tout le monde. Et donc là, on est en train de lancer un abonnement qui permet de manière dynamique toujours de définir des budgets avec moins de questions, mais en prenant en considération d'autres facteurs tels que le projet est-il à la montagne, est-ce qu'il est au bord de la mer, y a-t-il des parties communes qui sont particulièrement généreuses, l'agencement fait-il partie des limites de prestation, oui, non, est-ce qu'il y a un curage à prévoir, etc.
Et enfin, quid de la RSE?
Bah, la RSE, vaste sujet. Alors, on a ouvert il n'y a pas très très longtemps, donc on n'est pas encore Bicorp et entreprise à mission, mais ça va très certainement venir. Mais surtout, j'ai une approche très 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 pratico-pratique de la RSE. C'est-à-dire que je pense que tant que l'argument c'est « il faut qu'on sauve le monde », je pense qu'on se situe dans une temporalité qui échappe en fait à la majeure partie des investisseurs. Et ça va fonctionner à partir du moment où on aura résolu une équation très épineuse qui est de savoir si c'est cost efficient d'être vertueux. J'ai pas trouvé le mot, donc j'ai buté. Et en fait, je suis convaincu que la réponse, c'est oui. C'est ce que j'ai étudié dans le cadre d'études pour Holdon, cette fois, que j'ai réalisé pour l'ameublement français, où je me suis rendu compte que, en fait, de fabriquer à proximité avec des matériaux durables, bah, en fait, c'est plus efficace financièrement pour la simple et bonne raison que tout le temps passé par la maintenance pour la réparation. Ce qu'il faut imaginer, c'est que la maintenance pour un hôtel de 150 chambres de 5 étoiles, à l'ouverture, c'est 3 personnes qui bossent sur la maintenance. Au bout d'un cycle de rénovation de 10 ans, c'est multiplié par 3. Et tout ce beau petit monde va passer un tiers de son temps à réparer du mobilier. Et donc, il faut imaginer toute cette masse salariale où on a voulu faire des économies en CAPEX et en fait, on a juste transféré de la dette en OPEX. Et ben, en fait, si on passait avec du bois massif, par exemple, on n'aurait pas ce problème.
Donc, savoir appréhender le cycle de vie du mobilier.
Tout à fait, tout à fait.
Yoann Melloul, pour vous interroger également.
On l'a vu, vous êtes aujourd'hui reconnu pour votre expertise sur les projets d'aménagement dans le domaine de l'hôtellerie. Est-ce que ça nécessite des profils spécifiques au sein d'équipes que vous pouvez amener avec vous?
Bah, disons que non, en fait, je crois que ça nécessite surtout une tête à peu près bien faite. À la base, j'ai fait du chinois jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui le parlaient mieux que moi et que j'avais peut-être un avenir dans d'autres, avec d'autres compétences. En fait, j'ai tout appris sur le tard. Donc, en fait, je suis persuadé que c'est possible.
On l'a vu, vous venez combler une carence dans la gestion des projets immobiliers et hôteliers. Quels sont vos concurrents directs aujourd'hui? Est-ce que c'est des grands groupes? Est-ce que c'est des indépendants qui viennent adresser? Ou vous êtes tout seul?
Sur cette partie-là, je les cherche encore. Après, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est un métier qui nécessite la compétence d'un senior avec l'agilité d'un stagiaire. Et le truc, c'est qu'un grand groupe, il peut pas c'est compliqué de dépêcher quelqu'un qui va bosser pendant 3 semaines sur un projet et après va partir sur un autre projet et peut-être pendant un certain temps va se croiser les bras ou alors va bosser sur un algorithme dont il ne sait pas s'il va intéresser le vulgum populo. Et donc, pour l'instant, je ne vois pas encore de concurrent. Il y en aura très certainement. Ça, c'est que c'est une bonne idée s'il y en a.
C'est ça. C'est peut-être un peu tôt d'y penser, mais est-ce que vous vous projetez dans... éventuellement dans une stratégie de croissance externe pour de nouvelles verticales business ou géographiques?
Bien sûr. Alors, géographique, pas forcément. Par contre, business, bien évidemment. Après, je crois qu'on a inventé un système, on a formalisé le doigt mouillé. Et c'est ça qui est particulièrement important pour nous, c'est que quand on va concevoir un hôtel, un investisseur, il doit savoir s'il y va ou pas. Et très souvent, il dit « je veux faire un 4-5 étoiles », il n'a pas les idées hyper claires. Mmh. Et ça, je pense que c'est aussi réel pour nous, individus, au quotidien. Si on va acheter un appartement, on veut savoir au doigt mouillé si le prix qu'on nous propose est cher compte tenu d'un certain nombre de critères. Mmh. On veut savoir si on l'achète, combien ça va coûter de le meubler en faisant bosser tel ou tel architecte, ou alors en bossant nous-mêmes avec que du mobilier chiné. Et donc, à partir du moment où le système est créé, en fait, ça n'a de limite que l'imagination. Mmh. Donc, évidemment, si on prend un appartement haut de gamme, c'est jamais qu'un hôtel sans restaurant. Un restaurant, c'est jamais qu'un hôtel sans chambre. Et comme ça, pareil.
Alors, moi, j'ai une dernière question. On l'a dit, vous avez fait des études de chinois. Est-ce que ça vous sert un peu quand même aujourd'hui?
Alors, pour aller au restaurant, notamment, oui, ouais. Beaucoup. Et quand j'étais fumeur, pour acheter des cigarettes. Mais sinon, c'est vrai que ça me manque et je ne l'exploite vraiment pas assez.
Mais ça pourrait vous servir dans votre business, justement, peut-être à venir. On parlait de l'international.
Alors, j'avais un super bon niveau à l'époque. Mais le truc, c'est que pour parler d'algorithme, je crois que je vais déjà rester en français. Prendre un traducteur ou un interprète, éventuellement faire quelques petites touches d'anglais. Mais là, je me sens quand même pas à l'aise pour, pour parler d'algo. En
chinois. Merci beaucoup, Martin Bretéché, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir partagé votre expérience. Merci également à vous, Guillaume et Johan. C'est déjà la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et puis, on se retrouve jeudi prochain, bien sûr, à 14h, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.